bande originale du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 11h. La bande originale, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez avec les Lagadons Boudagis.
Bonjour à tous.
Marina Rollman.
Bonjour.
Daniel.
Mais
oui, c'est ça.
Ah bah oui.
Non, mais j'ai commencé avec Daniel Rousseau, j'ai dit non. Daniel Morin.
Bonjour Marina.
Tom Villa.
Bonjour.
Tony Pastureau.
Ah oui.
Madame Manon, Daniel Rousseau et Didier Bédureau sont nos invités.
Ah bravo, oui.
Il y a trop de Daniel, il y a trop de Daniel autour de cette table. Bienvenue les garçons, bienvenue. Ça, vous êtes en forme, vous allez bien?
Oui, très bien.
C'est
oui,
vrai.
Oui,
c'est ce qu'il me disait.
Il disait quoi?
Qu'il était en forme.
Ah bon, d'accord, c'est l'essentiel. Alors, on est ravis de vous accueillir. Vous êtes au théâtre en ce moment dans une pièce où on va avoir du mal à en parler de cette pièce parce que il y a le point de départ qui est extrêmement fort.
Ah, faut faire attention.
Et il faut faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on ne dit pas. Ça s'appelle Le Crédit. C'est signé Jordi Galceran. Comment
on prononce?
Galceran. Espagnol ?
Espagnol. Catalan.
Très bien.
Catalan, oui.
Avec une mise en scène d'Eric Sivanian. Pas catalan.
Sivanian.
Sivanian.
Basque.
Non. Ah, ok. Arménien, peut-être. Alors, ok, d'accord.
C'est
au théâtre.
Je pense que c'est
Sivanian.
C'est au théâtre de la Gaîté Montparnasse.
Montparnasse.
Et il faut y aller vite, parce que vous vous arrêtez fin mai, c'est ça ?
Fin mai. Mais on reprend.
Ah.
Dans un autre théâtre.
La Comédie des Champs-Élysées.
Très bien.
Voilà.
Ça, c'est la bonne nouvelle. Prolongation.
Ça, c'est la bonne nouvelle.
À la Comédie des Champs-Élysées, c'est extrêmement drôle. C'est totalement barré. On va en parler dans quelques instants. Mais d'abord, des questions concernant Didier Bénureau et Daniel Rousseau. On va commencer par Daniel sur scène, construit par les filles. Sur scène, il y a 40 ans, Daniel Rousseau regarde par l'œilleton du rideau avant que la pièce ne commence et voit quelqu'un. Qui a-t-il vu ?
Le président de la République.
Non.
Sa femme.
Quelqu'un de sa famille ?
La femme de qui ?
La femme à lui.
Non, la femme du président de la République.
Non.
Non, sa femme à lui.
La femme de
Daniel.
Oui. Mais à lui qui ? Non, mais pas encore.
Bah non, pas encore.
Ah non, alors non. Ah, vous la voyez. Et vous voyez.
Sa future femme.
Oui. Ça fait 8 points pour Daniel Morin.
Mais non.
Il s'est accroché, là. Hein.
Voilà. En fait, vous, entre guillemets, vous repérez une jolie femme.
Voilà,
que
je
vous
cherchais des
pas.
Amis et j'ai vu cette jeune fille toute blonde, magnifique, que j'ai trouvée absolument sublime. Et j'ai appelé la femme de Jacques Fabry. Je lui ai dit, regarde comme elle est belle, cette fille. Et elle me dit, mais t'es un grand malade, parce qu'après le spectacle, elle sera partie, tu ne la reverras plus. Et elle accompagnait mes amis.
Oh là là, wow. ça
Et elle est arrivée dans les coulisses.
Bouch.
Et là, c'était le flash total.
On va rappeler quand même que donc, le rideau rouge, velours est fermé. Il y a un tout petit trou, généralement, je ne sais pas si ça se fait encore.
Ça se fait encore,
oui,
on l'a, nous.
Parce que nous regardons tous les soirs.
On regarde là un petit peu la salle.
Maintenant, il y a des caméras de sécurité aussi pour voir qui est dans la salle. Mais enfin, par l'œilleton, à quoi sert cet œilleton ? À repérer les potes, à voir si la salle est pleine, à voir si le public sera bon ou pas ce soir. Qu'est-ce que vous en faites, vous ?
Ben, on voit un petit peu l'état de la salle et comment elle est faite, quoi. Bien sûr. C'est
regarde s'il y a du monde.
Didier, oui, vous regardez s'il y a du monde.
Lui, regarde s'il y a du monde. Il compte.
Je ne vois pas les gens. Je suis myope, donc je regarde la masse.
Est-ce que l'on sent si un public va être bon ou pas avant que le rideau ne s'ouvre?
Un petit peu à l'oreille,
oui. Ouais.
On entend s'ils sont bien en vie.
S'ils sont vivants.
Bah oui, parce que parfois il y a des vieux qui,
enfin.
qui dorment
ah
totalement
bon,
abattus.
Enfin,
mais ça c'est le dimanche.
non, le soir aussi.
Mais non, mais on entend quand ça. Les gens, quand ça bruise, quoi.
Le fait que ça parle fort avant même que ça commence, c'est un bon signe. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont envie de s'exprimer, quoi.
Ouais,
c'est ça,
trouve,
de partager.
Oui, exactement.
D'accord.
Non, mais hier, il parlait très très fort et surtout beaucoup de commentaires.
Oui, pendant la pièce.
Qu'est-ce qu'il parlait pendant la pièce?
Ouais, c'est vrai.
Moi, je sais que j'ai un petit monde au téléphone et je prenais pas les mêmes temps. Parce qu'il parlait avant moi. Jean, je sais ce qu'il va dire.
Revenons à la
scène. Ils étaient juste devant moi.
Ah oui, c'est vrai.
Est-ce qu'on peut revenir à cette jolie blonde donc, que vous avez œilletée avant de croiser lorsqu'elle est arrivée derrière? Est-ce que lorsqu'on est comédien, on perd quand même ses moyens en tombant amoureux ou au contraire, on sait incarner le personnage, le bon
jeu? J'étais totalement.
Sans voix.
Subjugué. Quand je l'ai vu arriver en coulisses, j'en revenais pas. Je me suis dit, mais c'est incroyable, quoi.
C'était il y a combien de temps?
C'est 44 ans.
Oh.
Et vous êtes toujours ensemble?
Oui.
Toujours amoureux, comme au premier temps.
De plus en plus.
Et vous n'avez toujours pas ouvert le rideau et vous la regardez toujours par
c'est
le huton.
C'est possible, donc ça existe.
Mais ça existe vraiment.
Ouais, Marina, t'as vu,
ça existe.
Ah ouais, je suis en pamoison, là.
C'est génial. Question concernant Didier Pénureau. Qu'est-ce qui fatigue Café Didier avec un de ses camarades à son professeur d'économie.
Ils ont inversé leur identité.
Non.
Il lui a rasé le crâne.
Non.
Il a volé sa voiture.
Non. C'est violent ça, raser le crâne quand même. Non.
Ouais. Oh, ça dépend. Moi, ma grand-mère en 45.
Ça, elle a cherché en même temps.
c'est une blague de quel ordre
C'est une blague d'ordre.
Ils ont fait semblant qu'il
renvoie de 3 jours.
Ah.
Ils ont mis de la colle sur son siège.
Non.
Ils ont mis feu à ses vêtements.
Ils ont volé quelque chose, ils l'ont.
Ils ont déchiré ses papiers.
Ils ont simulé quelque
chose.
Ils l'ont
dénoncé pour un motif à la.
Non, ils dénoncent pas. Ils ne dénoncent pas.
Qu'est-ce qu'on peut faire
La boîte aux lettres, quelque chose, toujours les boules puantes, les grands classiques.
Il y a du caca dans un papier journal.
C'est un prof d'économie. Non, ça c'est très drôle, ça j'adore. Et tu mets le feu au journal.
Oui, bien sûr.
J'adore,
oui. Et tu le fais sur le Figaro, c'est formidable.
Non, c'est pas ça.
Tu as dit quelque chose,
c'est en lien avec
la
discipline, c'est ça?
Avec l'économie?
Non, rien à voir avec l'économie, c'était juste pour situer l'âge. En l'occurrence, c'était pas en primaire, c'était plutôt en lycée. Voilà, un prof d'économie, donc c'est en lycée.
Et il l'enfermait dans la salle.
Alors, il y a un côté.
Séquestration.
Le privé de ses mouvements, oui, mais c'est pas.
Ils l'ont attaché.
Exactement.
Quoi?
Vous êtes sérieux?
Oui, on l'a attaché sur une chaise. On l'a ficelé.
Oh mon Dieu.
On l'a ficelé.
Vous êtes fou.
On l'a tourné. C'était Karaknin.
Le réalisateur?
Oui. C'est toujours un copain. Je l'ai eu au téléphone tout à l'heure d'ailleurs. Mais oui. Parce que Pierre était très déconneur. J'étais quand même assez timide.
Didier, c'est pas complètement de la déconne que de ficeler un prof.
Mais c'est pas légal.
On l'a ficelé, mais en même temps, il s'est un peu laissé faire. Il se marrait quand même.
Ah oui, d'accord. Mais vous êtes fait quand même renvoyer.
Il se marrait
peut-être. Non, j'ai dit pour situer le degré d'importance, j'ai dit ça mériterait un renvoi de 3 jours.
Non,
mais
on
n'a
même pas été puni.
Le prof n'a rien dit.
Ah, mais il aimait
ça. C'est-à-dire qu'il a été surpris, puis on. Non, et puis ça l'a fait rire, et donc on a continué.
À quel moment en cours on se dit, tiens, on va se lever, on va fixer.
C'était au début du cours.
Ah, c'est mieux.
Et pour quel motif?
Je m'en souviens pas.
Et Tom a raison, il faut avoir du matos, quoi.
Le prof n'avait pas tellement d'autorité. Il n'en avait aucune.
Et la balle de ping-pong dans la bouche, après, il a pas mal pris.
En fait, il y a les gens. Personne ne l'écoutait quand il faisait cours. Enfin, il recevait des boules de papier, des.
Ah, le pauvre.
Des cendriers.
Mais non, mais en même temps, on l'aimait bien, mais bon, il n'était pas très, très respecté.
Qu'est-ce qui
fatigue? Ne faites pas ça à la maison.
Ou vos grands-parents, ils se débattent moins.
Qu'est-ce qui fatigue le plus Daniel Russo dans sa carrière de comédien?
Les voyages,
apprendre
la
le texte.
Tournée.
Non.
Supporter les autres acteurs.
Tard. L'inverse.
Les costards.
Se lever le matin.
Non.
De pas jouer.
Exactement.
Ah oui.
Quand il n'y a rien à faire. En fait, quand vous êtes en vacances, vous n'aimez pas les périodes creuses.
Au bout de 2 jours, c'est terrible.
Non, vous exagérez.
Non, c'est vrai.
De toute façon, vous, à partir. Depuis que je sais que vous dites tout et n'importe quoi, je ne vous crois plus dès que vous parlez, Daniel. C'est fini. Il m'a emmené dans des bateaux monstres et donc je me méfie, Daniel. Alors, je vous le dis, c'est un énorme menteur, Daniel Russo. Il s'invente des vies qu'il n'a pas eues, des amis qu'il n'a pas, et peut-être même une carrière qu'il est en train de faire, je ne sais pas.
Des partenaires.
Il invente.
Il n'existe
tout.
Pas.
Oui, Didier Benureau n'est pas là, en fait. Donc, vraiment, au bout de 2 jours, vous.
Non, mais oui.
Vous savez partir en vacances, vous savez profiter de la vie.
Oui.
Quoi.
Bien sûr, mais après, ça, j'ai envie de revenir sur Paris, j'adore Paris.
Mais vous ne connaissez pas les bons endroits, Daniel.
Et puis, si, parce que moi j'ai été élevé à Marseille, au bord de la mer, donc
oui, c'est ce que je dis.
Je connais la mer, et puis j'ai pas du tout envie de retourner, j'ai connu ça tout gamin, et donc je sais
c'est vrai
que
la dernière fois que vous étiez venu ici, c'était pour nous parler de 2 pièces que vous jouiez en même temps,
voilà.
et vous alliez de moto de l'une à l'autre,
voilà.
tellement vous avez très peu de temps. 19h
et 21h.
C'est ça,
ouais.
Vous passez d'un théâtre à l'autre.
Et j'ai failli faire un cabaret après. Mais ça, c'est pas fait.
Vous étiez pas épilé, c'est ça le problème. Pourquoi
vous connaissez bien tous les deux.
Pourquoi un soir, les parents de Didier Benureau ont-ils retrouvé leur frigo totalement vide?
Il a une fringale.
Non.
Il a invité tous ses copains d'école.
Exactement. Vous avez invité toute la classe à venir manger à la maison.
En fait, je les ai pas invités, c'est-à-dire. Enfin, il y avait beaucoup de copains de classe qui venaient à la maison, effectivement.
Et comme vous n'aviez pas beaucoup d'autorité, ils vous ont ficelé.
Non, j'étais malade.
Ah.
Et en fait, j'ai.
Alors, ils sont venus vous visiter.
Oui. Sauf que je m'y attendais pas du tout. Et il y avait, en fait, ils avaient tous, il y avait un cours, peut-être d'économie d'ailleurs.
Décidément.
Et en fait, ils ont sonné chez moi, il y avait toute la classe qui était là, enfin, il y avait une vingtaine de
camarades. Ah, tu les as pas invités,
Et non, c'est vous. Je les ai pas invités, ils sont venus chez moi, parce qu'ils avaient l'habitude de venir, mais d'un petit groupe, papa. Mais
une fois qu'ils étaient à la maison, là, vous les avez,
je me suis remis dans mon lit, puisque j'avais un peu de fièvre, j'étais pas venu. Et puis, on a discuté.
Non, voilà, mais ils se sont pas servis. Vous avez dit bouffer un truc si vous voulez.
Ah, bah si, parce que tout le monde se servait dans le frigidaire. Donc, quand mes parents arrivaient, souvent il n'y avait plus grand-chose.
Plus rien à manger. Quelle appréciation revenait souvent sur les carnets de notes de Daniel Russo?
Pas mal.
Rêveur,
gros menteur.
Peut mieux faire.
Non.
Mytho.
Non.
Hyperactif, il est intenable, il est
très bon élève.
Oui, mais
peut mieux faire.
Très doué, mais
arrogant, un peu tient pas en place, bavard.
Sur ses acquis quoi. Enfin, il y a un truc de il se repose sur ses
lucides. Très doué, mais
pour la comédie.
Mais fait pas d'efforts.
Non, mais je prends le fainéant. Mais ne veut pas.
Ne veut pas.
Très doué, mais ne veut pas. Oui, une formule assez particulière. Pour toutes les matières, même le français, même le théâtre, s'il y en avait.
Oui, non, moi j'étais passionné de peinture et de dessin et je ne pensais
et
qu'à
ça. Et de
musique
aussi, non?
Et de musique, bien sûr. Et donc, c'est vrai que même à 12 ans, on avait déjà formé un groupe, donc, je pensais qu'à ça, quoi. Bien sûr.
Au point de ne rien vouloir faire.
Ah ouais, ça m'énerve. Donc,
comment les autres profs savaient que vous étiez doué? Ou alors c'est vous qui l'ont raconté dans un élan de modestie?
Non, mais c'est eux qui disaient. Et c'est vrai, bon, quand c'était en oral, bon, je répondais, voilà, mais dès qu'il y avait un écrit, ça vous
bloquait.
Oui.
Un jour, Didier Bénureau tombe sur Bertrand Blier dans une station-service et en profite pour faire quoi?
Le plein.
Mais par rapport à Bertrand Blier.
Pour lui demander un rôle,
pour le féliciter.
Non. Pour lui donner un scénario.
Presque.
Pour lui donner une idée.
Presque.
Son CV.
Pour faire la critique d'un de ses films. Pour
un livre, tiens, tu devrais adapter ça.
Non.
Une photo de lui.
Ah, une critique
presque.
D'un film.
Non.
Lui donner un conseil.
Un film de lui.
Non. Presque.
Le numéro de son agent.
Non.
Une coupe de cheveux. Laver les vitres.
Non.
Coupe
de cheveux. Il lui donne quelque chose. Oui. Pas une photo, pas
un numéro,
pas un film.
Un DVD, un truc, une cassette, une bande démo.
Exactement, de son spectacle, de votre seul en scène.
Oui, j'avais joué au théâtre de 10 heures. J'avais joué avec Muriel Robin, une pièce qui s'appelait Maman ou Donne-moi ton linge, fais une machine. Et on a joué au théâtre de 10 heures.
Ça se fait plus les pièces comme ça avec les titres, genre.
Mais pas parce que moi je voulais Avignon, Maman. Avignon, oui. Et Muriel, elle préférait Donne-moi ton linge ou je fais une machine. Donc on a mis les deux. En fait. Et juste après cette pièce, au théâtre de 10 heures, c'était le fils Galabru qui avait repris ce théâtre. Et il m'a dit pendant 2 semaines, il y a rien. Est-ce que tu veux tenter quelque chose? Et j'ai écrit avec un copain très vite un one man show.
Ah oui. En 2 semaines.
Pas en 2 semaines. Non, c'était 2 mois avant.
Pardon, c'était libre pendant 2 semaines.
2 semaines.
Et vous avez prévu
fin
ou 2 mois
décembre,
avant.
Je crois que c'était.
D'accord.
Et donc on a écrit très vite ce one man show. J'ai joué donc 2 semaines et
Déjà du Bénureau dans le ton, dans l'esprit, dans la gentillesse et la délicatesse.
Très très gentil, des personnages tous gentils.
Rien d'horrible.
Il y avait rien de fou,
de méchant,
c'était très très basique, très
du Bénureau quoi.
et j'ai une copine qui a filmé ça et j'avais fait un petit montage et puis je suis tombé sur Blier dans une station service et comme je le connaissais parce que enfin bref on s'était croisés parce que je voulais faire une adaptation d'un de ses films. Bref, je l'ai reconnu. Je lui ai dit, tiens...
Pourquoi tu viens pas me voir déjà, dans un premier temps?
Voilà, exactement. En fait, oui, effectivement, j'étais un peu... Parce que je l'avais invité, je l'avais appelé. Je lui avais dit, je joue 2 semaines. Ce serait formidable que vous puissiez venir, tout ça. Ouais. Puis il n'était pas venu. Et donc, je suis tombé sur lui. Et je lui ai dit, mais comment ça se fait que vous n'êtes pas venu? J'étais jeune et un peu inconscient. Il y avait d'autres choses à faire.
Vous n'aviez jamais travaillé ensemble avant?
Non.
D'accord.
Et donc, je suis monté dans ma voiture et j'ai vu cette cassette vidéo qui était dans ma voiture. Et donc, j'ai couru après sa voiture. C'était une Golf GTI noire.
Immatriculée. Voilà.
Et j'ai couru après, et je lui ai donné la cassette et j'ai dit, vous la regardez, parce que j'en ai très peu des cassettes.
Alors, la seule vraie question, Daniel Russo la pose. Et après?
Et après, presque 9 mois après, je crois.
Le temps de gestation normale.
Exactement. Eh bien, il a téléphoné chez moi et ma petite amie de l'époque, j'étais pas là, j'étais parti faire une course. Et il dit, je suis bonjour, je suis Bertrand Blier, elle lui répond, et moi je suis les Beatles. Et elle dit, raccroche... bah non, c'est vrai. Non, non, elle a pas raccroché, mais elle a cru que c'était une blague. Et donc, elle m'a dit, bah, c'était vraiment lui. Et elle me dit, bah, faut que tu le rappelles tout de suite. Et donc, j'ai appelé Blier, qui m'a dit, ça m'a fait beaucoup rire, c'est très très drôle. Vous passez la prod, je vous donne le scénario. Voilà.
Pour jouer dans Trop belle pour toi.
Pour jouer dans Trop belle pour toi, oui.
Finalement, grande idée, grande chance d'avoir cette cassette sur le siège et d'assumer, j'ai envie de dire, parce qu'on peut passer aussi pour un relou de courir après un réalisateur en disant, tenez, voici la cassette de mon spectacle. Mais ce qui est formidable,
c'est... Il le fait souvent.
C'est il court, on le voit courir dans la rue après plein de gens pour donner des...
On s'entend des théâtres dès qu'il en voit un.
En tout cas, c'était fructueux de le faire.
Ah oui, oui, oui. C'est un très bon souvenir, très bon souvenir.
Le crédit, c'est un succès, cette pièce, et c'est un truc de dingue, c'est-à-dire jusqu'où sommes-nous prêts à aller, ou seriez-vous prêts à aller pour obtenir un crédit. Vous êtes Didier Bénureau, le client qui débarquait chez le banquier joué par Daniel Russo. C'est même pas votre banquier d'ailleurs, vous débarquez, vous n'avez même pas de compte dans cette banque en question, rien. Et vous dites bonjour, j'ai besoin d'un prêt.
Voilà, j'arrive en short. J'ai pas de garantie, je suis pas...
Il vous connaît pas, il sait pas qui vous êtes.
Non, j'y vais carrément.
Vous n'êtes pas solvable.
Et c'est vrai que je me sers d'un argument...
Terrible.
C'est-à-dire que...
C'est terrible. C'est le doute,
je fais un chantage. Ouais. Je fais un chantage. Comment dire ?
Alors attendez, parce qu'on a eu la chance de faire une émission ensemble avec Daniel Russo et où on a joué avec le côté on le dit, on le dit pas.
Oui, c'est ça.
Et après, on avait pris l'optique de ne pas le dire, mais je me demande quand même si de dire quel est le chantage sans expliquer ce qui se passe après n'est pas plus porteur pour la pièce.
Moi, je pense que maintenant qu'on change de théâtre, on peut y aller.
On peut y aller, on peut le dire.
Parce que la machine est lancée et les gens se le disent.
Parce que le chantage est totalement dingue, est totalement fou.
Ah oui.
On va juste préciser que c'est légal.
C'est vrai.
Vous n'êtes pas hors la loi dans le chantage.
Non,
que vous
c'est
faites.
Légal.
Ah non.
Non, non.
Non, c'est légal. C'est légal.
Tout le monde peut le faire.
Tout le monde peut le faire. Donc,
c'est quoi ?
Donc, écoutez bien, vous allez pouvoir obtenir le crédit que vous souhaitez.
Non.
Si. Vous allez pouvoir obtenir le crédit.
C'est une recette
souhaitez.
Pour obtenir un crédit.
Exactement. Ça marche. Peut-être.
Oui, mais il y a des raisons souterraines que je ne connais pas.
Et il y a des risques aussi, quand même, physiques.
Non, pour que ça marche, c'est parce que je. Voilà, il y a... Il y a une situation que je ne connais pas qui fait que ça marche.
Oui, bien sûr.
Mais non, mais
je lui dis.
En gros, vous lui dites.
Si vous ne me donnez pas le crédit, je baiserai votre femme.
Voilà. Donc c'est là.
Mais il m'a dit ça parce que j'ai une photo de ma femme sur mon bureau et qu'il l'a vue.
Qui est très belle.
Et ce qui est formidable, c'est que évidemment, dans un premier temps, on se dit, mais ça arrive au bout de 5 minutes, quoi, la pièce.
Ouais.
On se dit, ok, là, ils sont allés à un point tellement loin dans la pièce que on ne voit pas comment ça peut tenir encore.
Exactement.
C'est ce que je me suis dit. Il m'a dit que c'était pareil. Hein.
Ah oui, pareil. Moi,
quand j'ai lu ça,
j'ai eu envie de faire la pièce.
Il faut que ça tienne le coup, quoi.
ne serait-ce que pour baiser sa femme.
Oui, bien sûr.
Non, mais un texte comme ça, moi, je lis ça. Et j'ai tout de suite eu envie de faire la pièce, mais alors, je me suis dit, est-ce que ça va tenir la distance ? Ça, c'est vraiment... Et ça marche.
Il faut préciser qu'en gros, votre personnage dit qu'il parviendra à avoir une relation sexuelle avec la femme du banquier, et c'est consenti. Voilà, c'est pas une agression.
Ah oui,
c'est de la séduire.
Oui, exactement.
C'est de la séduire, et c'est de la séduire
comme ça,
au point où elle aura envie, de faire l'amour avec ce client qui n'obtient pas le crédit.
Ah oui, le mec...
Et le gars est très calme en disant, mais maintenant, si vous me donnez le crédit... Je vous laisse
pas
tranquille
problème.
Avec votre épouse.
Voilà.
Et là, c'est la bascule, c'est-à-dire que on part dans un autre monde, quoi. Daniel Russo.
Ça oui, puis
le banquier devient dingue.
Il s'est pas rendu compte, mais il découvre que le banquier a des failles.
Ouais.
Et qu'évidemment, avec sa femme, c'est...
Qu'il va révéler tout seul au fur et à mesure, d'ailleurs.
Mais c'est lui-même qui se tend ses pièges à lui tout seul. Il le fait revenir,
c'est
en plus.
Drôle.
Si normalement il s'en va, il le fait revenir. C'est une catastrophe. Et l'autre, il a tout de suite compris. Et il s'accroche, quoi. Parce qu'il est quand même, plus intelligent quand même que le banquier. Le banquier a un petit côté...
Banquier.
Si on veut.
C'est pas moi qui l'ai dit. Hein. C'est un personnage, le banquier, il est naïf.
C'est un naïf.
Il est surtout très amoureux.
Il tient
sa femme et presque sans le savoir. Le client qui a dit « je vais séduire votre femme », ça serait plus délicat d'ailleurs que de dire « baiser ». Mais c'est vrai que la réplique est là.
C'est, ah, c'est la réplique de la pièce, hein,
voilà.
Bien sûr.
Mais le fait qu'il la séduise d'une manière totalement légale, en disant « c'est mon charme, c'est comme ça, j'obtiendrai ces avantages ».
Oui, il dit « j'ai un don avec les femmes
ouais. ». Je plais aux femmes.
Je plais aux femmes.
Un je ne sais quoi qui...
Et lui, il se fout de mon physique.
Le sourire de Bénureau, mais j'adore.
Il est content de dire ça tous les soirs.
Mais oui, je suis ravi de dire ça.
Parce que vous-même, vous avez ça avec
les
femmes.
Ça pourrait être une réplique d'oublié. Si vous me donnez pas le crédit, je baisse ta femme.
C'est... Ouais, c'est d'oublié, ouais.
C'est vrai.
Et ben c'est du Jordi Galcerán et qui a été adapté et mis en scène par Eric Sivagnan. C'est voilà, c'est absolument formidable, c'est dingue. Il y a pas un moment où on s'assoupit. Tu y étais hier soir, toi.
J'y étais hier soir avec un public donc très bavard qui commentait, mais je trouvais ça hyper joyeux. Moi j'aime bien quand le public
au théâtre
participe.
Bien sûr, ils suivent.
Voilà.
Hein. Ah oui.
Et qui se demande bien comment le banquier va réussir à échapper aux manigances du personnage de Didier Bénureau. Donc c'est des rires à n'en plus finir, et puis le public qui participe au scénario aussi au fur et à mesure.
Voilà, toutes les 5 minutes, il se passe, il y a un nouvel événement qui font que les situations et le rapport, entre guillemets, le rapport de force et même le rapport physique et la distance entre les deux évolue. On se demande à quel moment d'ailleurs, parce que physiquement, pardon Didier Bénureau, mais Daniel Russo en impose physiquement, et on se dit que...
Vous voulez dire qu'il est gros?
Non, je veux dire que...
Il en impose.
Ça, tu vas le payer, ça.
Que une main ressemble plus à un steak de 250 grammes avec 5 doigts, ce qui fait que vous risquez de prendre dans le visage. On se dit, il y a un moment, il va lui en mettre une, quoi.
Oui.
Tellement il ose.
Ah, il y a un moment, je suis presque...
D'autant plus qu'il fait du karaté. Oui. Il dit, je suis ceinture noire de karaté.
Et non, moi, ça m'assure toujours les ceintures noires de karaté, parce qu'il y a une déontologie qui fait qu'ils ne peuvent pas agresser.
C'est ce qu'il dit, d'ailleurs.
Ouais. Ça s'appelle le crédit. Alors maintenant, vous qui êtes en train de demander un prêt et qui avez eu un refus, aurez-vous le courage d'aller jusqu'à dire à votre banquier « je vais séduire votre épouse si vous ne me donnez pas le crédit ». Vous m'avez dit d'ailleurs qu'il y avait eu un banquier qui vous avait dit qu'il avait...
Qu'il y avait un client qui avait fait ça, mais il avait fait ça à l'envers. C'est-à-dire que...
De dos.
Avant d'en parler au banquier, il a suivi la femme du banquier... Non. Il l'a séduite, et il a fait ça. Il est rentré dans le bureau, il a dit, voilà, ce que je tiens à vous dire, c'est que votre femme et moi, il se passe quelque chose.
Non.
Donc si vous ne me donnez pas le crédit, je continue. Si vous me le donnez, voilà. Et si vous me le donnez, j'arrête.
Non mais d'accord, non mais là, le gars a déjà ruiné le couple. C'est-à-dire le fait qu'il se passe déjà quelque chose entre sa femme et le client.
Il a dit, voilà, j'ai enclenché...
quand il va rentrer à la maison le soir, le banquier, ça va pas être la même ambiance à la maison.
Simplement, il avait parlé avec elle, je veux dire, il n'a pas été très loin.
Mais
il s'est dit, maintenant, je peux aller très loin.
D'accord. Donc voilà. ça pourrait être une histoire vraie.
Et donc voilà, il avait fait ça à l'envers. C'est un banquier qui m'a dit ça. Un client qui a fait ça.
Ça s'appelle le crédit. C'est pour l'instant à la Gaîté Montparnasse, et ça sera à la Comédie
des
Champs-Élysées à partir
du 29 mai.
Du 29 mai. C'est ça.
On termine le 25 à la Gaîté et le
29, jours après,
hop,
vous
boum.
Allez. Oh, 4 jours sans bosser, vous allez tenir?
Non, on va répéter.
Et ça va être un succès, c'est déjà un succès.
C'est déjà un succès. Je refais rapidement le pitch pour ceux qui arrivent à l'instant, mais bon, vraiment, parce que vous n'avez pas écouté. Donc un homme va voir son banquier pour obtenir un prêt, le banquier refuse, et donc le client essaie de l'amadouer et finit par trouver un moyen pas banal pour obtenir le prêt. Je croyais qu'on ne devait pas le dire, bon, a priori, voilà.
Et on a été tenté.
Ouais.
Après, on n'est qu'à la 4e minute de la pièce. Oui. Hein, donc
effectivement, tout ce qui est intéressant, c'est pas là où on va, mais la route qu'on prend, comme disait Dominique Chapat dans Turbo. Alors, question, si le banquier lui refuse le prêt, pourquoi il n'a pas été voir Nagui? C'est plus... Au moins, non, mais tu fais n'oublier pas les paroles, tu gagnes 20 000, ça te fait un petit apport.
Ah ouais,
non, mais c'est bien. Un mec qui va voir son banquier pour lui demander un prêt, d'où le titre, le crédit. Putain, c'est pas con, bien trouvé comme nom. Non, mais c'est bien les titres clairs où tu comprends tout de suite ce que tu vas voir. C'est vrai, pardon, mais il y a des titres de pièces qui n'ont tellement rien à voir. Le canard à l'orange, chapitre 13. C'est vachement bien, hein, mais t'as jamais entendu parler. Tu passes devant l'affiche, tu sais pas ce que tu vas voir. Tu vois chapitre 13, tu dis, bon, j'ai pas vu les 12 premiers, je pars de trop loin, j'abandonne. Alors que c'est pas compliqué de trouver un titre qui résume bien. Tu passes devant l'affiche de Ma voisine ne suce pas que de la glace. Bon, c'est pas Cyrano, mais au moins, tu te fais pas avoir sur la marchandise. Mais moi, ce que je trouve amusant, c'est de remarquer que le postulat de départ, qui aujourd'hui est comique, ne l'était pas hier. On dit toujours, en parlant de Molière, de la biche, oh, c'est fou, ça n'a pas pris une ride. Et tant mieux. Mais à l'inverse, si tu prends certaines pièces et tu imagines si elles étaient sorties plus tôt, elles auraient fait un four. Là, par exemple, aujourd'hui, le crédit, ça cartonne, mais il y a 20 ans, votre pièce, elle marche pas. Il y a 20 ans, tu faisais un prêt pour acheter une maison, le prêt, tu l'avais en 2 secondes. T'avais un taux à 9%. Quand tu signais le prêt, on t'offrait une bouteille de champagne, une coupe de vaseline. La pièce était pas drôle, elle durait 3 minutes. Aujourd'hui, t'achètes une maison, t'as un taux à 1,10, 1,20, c'est que t'as mal négocié. Évidemment que les banques, elles sont plus méfiantes. Et puis maintenant, pour avoir un crédit, tu passes une visite médicale. Donc en plus de peut-être te voir refuser ton dossier, on va peut-être te trouver une saloperie. On te refuse un prêt, t'as pas la baraque, mais en plus un petit coup de stress, tu sais. Donc un petit conseil aux hypochondriacs, restez locataires. Pour ceux qui veulent demander un crédit, allez voir la pièce, vous aurez tous les trucs pour braquer le banquier. En revanche, les places, elles, évidemment, sont payantes d'avance. Daniel Russo, lui aussi, a un crédit à rembourser. Bonne journée.
France Inter, Maggie, la bande originale.
Daniel Russo, Digne Benureau, le crédit à partir du 29 mai à la Comédie des Champs-Élysées, c'est extrêmement drôle. Est-ce que c'est drôle aussi à jouer, c'est-à-dire pour vous, parce que vous êtes dans une tension, c'est un combat, c'est un duel, c'est un combat de par moment. C'est aussi une manipulation psychologique.
C'est pas un exercice facile, parce que il y a un vrai rythme, il y a un tempo, et puis bon, c'est vrai que comme disait Michel Bouquet, le public vient pas pour te voir jouer, il vient pour jouer avec toi. Et c'est ça, joli, c'est très important. Mmh. C'est très important parce que ce public différent chaque soir réagit de manière différente, donc automatiquement la pièce sera différente.
C'est-à-dire qu'il donne un rythme différent à la pièce aussi.
Oui, parce que si un rire est plus long, on attaque dans la vague du rire, et donc et quelquefois,
vous surfez.
Oui, exactement. Oui, c'est une règle d'or.
Vous la connaissiez, cette expression?
Non, je découvre.
Attaquer sur la vague du rire.
Dans la vague du rire.
Et il n'a pas tort, c'est vrai.
C'est le Beach Boys du théâtre.
En fait. Et un soir, il peut ne pas y avoir de rire du tout à cet endroit-là. Donc, automatiquement.
Carrément.
Il faut. Ah,
Non, mais qu'il y ait plus ou moins de rire, j'entends. Voilà.
Quelquefois,
Ça bouge.
Ça bouge énormément.
Non, mais pas de rire du tout sur une vanne.
Oui, surtout sur Didier, quand il les rate, c'est dramatique.
Jusqu'au bout, hein, les deux.
Cadeau pour Didier.
C'est la vengeance pour tout à l'heure.
Non, mais il n'y a pas à rater ou à gagner. On essaye d'être vrai. Enfin, évidemment que le texte est drôle. Et ce qui se passe entre nous est drôle. Parce que moi, ça peut faire penser à l'emmerdeur. Moi, c'est des personnages. Il y a un personnage fort, comme vous dites, costaud.
C'est un duo de deux clowns.
C'est
l'Auguste et le clown blanc.
Le clown blanc et l'Auguste, on n'a pas fait mieux.
Et donc, ça marche bien si on est dans nos personnages et si la situation fonctionne. C'est ça qui fait marcher.
Et puis, moi, je suis un fou du timing. Donc, il peut y avoir un temps un peu long et on rate un effet.
Ça, c'est le musicien.
Ah non, mais c'est terrible. C'est une partition.
C'est une question de tempo.
Je veux dire que quand on répète une pièce, par exemple, le dernier partenaire, c'est le public. On ne l'a pas encore. Donc, on ne sait pas ce que ça va être jusqu'au bout. Et dès à la première représentation, d'un seul coup, t'as vraiment les réactions. Et là, toc, la partition, elle commence à s'écrire, évidemment.
Et le sens de l'humour et le sens du rythme aussi, c'est Marina Rolle.
Ah oui, alors.
Oh là.
Bravo, Marina. Ça y est, la nouvelle est tombée. La Suisse serait la nation la plus satisfaite du monde sexuellement, selon une étude parue récemment. Alors
je rappelle que tu es suissesse.
Absolument. Alors je ne peux pas me porter personnellement garante de la satisfaction sexuelle de tous mes compatriotes.
On est quand même 16,
mais dans le taille à mes cousins, donc voilà. Mais globalement, en effet, j'ai plutôt l'impression d'être entourée de gens qui sont contents quand on évoque leur vie intime. La question, c'est qu'est-ce qui fait qu'un pays, franchement, où rien naturellement n'invite à la gaudriole, est en tête. Mais c'est vrai, niveau bouffe, par exemple. En Suisse, on a une alimentation qui est composée à 80% de patates, de fromage et de vin blanc, ce qui n'est pas universellement considéré comme un remplacement viable du Viagra, tu vois. Personne s'est jamais dit après une raclette, ouh là, franchement, le truc qui me ferait bien kiffer, c'est qu'un autre humain se mette sur moi, s'il pouvait faire en sorte de me respirer très fort dessus et de devenir un peu rougeau, et qu'en même temps, on pouvait monter un peu le chauffage, ce serait vraiment le pied. Donc, on a la première réponse, c'est pas la bouffe.
C'est bien, on a bien l'image.
Alors ensuite, sur le plan musical, il faut se rappeler qu'on est quand même un pays de montagne, majoritairement germanophone, donc le gros de ce qu'on produit, c'est de la musique traditionnelle chantée en suisse-allemand avec des accordéons. Qui est une bande son super si tu as envie de boire de la bière ou de faire un putsch, mais globalement c'est pas Marvin Gaye, ouais voilà, et le yodel, donc ça c'est pas très sexy. Alors j'exagère, on n'a pas que ça, on a aussi beaucoup de rasta blancs en Suisse, énormément, des mecs qui chantent des trucs genre wo yo life in the ghetto, et t'es là mais tu t'appelles Maxence, t'es blond vénitien de où, wo yo, qu'est-ce que tu fais, bref, là non plus c'est pas la musique qui te donne envie d'explorer les mille et une richesses du plaisir prostatique, donc c'est pas la gastronomie, c'est pas la musique. Alors, est-ce que le rapport au corps, de manière générale, tu sais, il y a des pays où il y a certaines danses, certains sports qui laissent penser que spontanément, les gens s'entraînent s'entretiennent, se montent, se touchent, il y a une sensualité constamment présente. Tango, alors oui. Voilà, par exemple, les Suisses ont fait quoi comme sport? Du ski, du bobsleigh et du curling. Alors bon, à part si tu as vraiment un truc pour le lycra, un délire un peu SM cambrioleur comme ça, c'est pas des sports sexy. Le truc qu'on a qui se rapproche le plus de peut-être une activité semi-excitante, c'est le tennis, qui consiste à voir deux personnes geindre comme des lamentins malades pendant 16 heures. Ça te fait des physiques bancales, tu sais, d'un côté t'as le bras de Hulk, de l'autre on dirait que tu viens de sortir de 3 mois de plâtre. Enfin, je veux dire, à nouveau, c'est pas méga excitant cette histoire. Mais alors, qu'est-ce qui fait qu'on baise, bordel? Et surtout, qu'est-ce qui fait que c'est bien? Eh ben, je crois que c'est les vieux. Voilà. On est le pays qui a la plus grande espérance de vie au monde derrière le Japon, et c'est pour ça qu'on ken, les amis. Parce qu'il est temps, définitivement, de mettre un terme à un mythe stupide. Non seulement 20 ans, c'est pas le plus bel âge, et très sincèrement, si ça l'était, ce serait hyper triste pour les 60 années qui te restent à tirer derrière. Mais surtout, c'est pas parce que tu es jeune et beau que tu baises bien. Et oui, c'est même assez injuste de constater à quel point c'est le contraire. À quel point les relâchements divers et variés, le côté un peu flappy, généralisé, de nos enveloppes en décomposition, signent au contraire la grande libération des carcans, des complexes, de la performance, pour aller vers la joie simple des gens fripés qui ont l'air de kiffer, finalement. Vous savez qu'il y a un problème
pas
assez...
Pas là, visiblement.
Mais il est très tôt. Il est très tôt. Ils sont timides.
T'as senti le flottement.
Ils sont bien avec des collègues.
La vague, tu l'as senti, la vague.
Non, mais c'est des premiers encarts. Ils se connaissent pas encore, tu vois, ils osent pas. Ouais. Non, mais vous savez qu'il y a un problème assez généralisé à défaut de grossesse non planifiée, c'est les épidémies de MST en EHPAD. Vous saviez ça?
Non.
Mais oui, mais bien sûr, mais ils ont tout compris. Évidemment qu'à 80 balais, c'est plus marrant qu'à 20 ans. Évidemment que Yoda, c'est plus sympa que Han Solo si tu dois passer une soirée. Parce que si tu as fait l'amour sous 12 présidents, 3 monnaies, que tu as survécu à des cancers, des potes, des grossesses, mais évidemment que tu es un amant plus marrant. Mais surtout, tu sais tout faire et tu n'as plus rien à prouver. T'as pas besoin de t'agiter comme un stagiaire du Cirque du Soleil, là, à essayer de faire l'amour dans la douche, suspendu par les pieds, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. À un certain âge, tout le monde a de l'arthrose, donc il faut être créatif. Tu effleures un genou, ça devient tantrique. Bref, tout ça pour dire, réjouissons-nous de la décrépitude, réjouissons-nous d'être vieux, les amis, parce que les vieux, c'est comme les Suisses, ils ont tout compris.
Bravo! La bande originale, la vie,
sur France Inter. Ah, elle vous a mis en joie, Marina Rollman, et rassurée quelque part.
Ah, oui. C'est mieux d'être flappy.
On est bien flappy.
Flappy.
Pas encore.
La musique présente dans la vie, je rappelle que nous parlons de cette pièce Le Crédit, qui se joue à partir du 29 mai prochain à la Comédie des Champs-Élysées. Et est-ce qu'une tournée est prévue? Sortirez-vous du périphérique, messieurs?
Ah, je pense.
Je pense.
Oui. Faut qu'on se mette d'accord sur la date, c'est tout.
C'est ça, vos plannings doivent être mutualisés et synchronisés. La bande originale de Daniel Russo et Didier Benureau, on va commencer dans le milieu des années 70. Didier Benureau, vous écoutiez... Marcel Dadi.
Marcel Dadi, bien sûr.
Vous jouez de la guitare?
Oui.
Vous avez appris avec la méthode à Dadi?
Oui, je savais jouer avant, mais j'ai découvert ça... Je savais jouer avant de la guitare, mais j'ai découvert le picking et ça m'a tout de suite emballé. Et j'ai été acheter une guitare Ovation dans le magasin de Marcel Dadi.
Au milieu des années 70, il faut vous imaginer avec les cheveux
longs,
blonds. Raide.
Oh là, ok. Attends, moi j'ai besoin de.
Ouais, un peu raide.
Avec des pattes.
En même temps, ça faisait un peu ça quand même.
Ah ouais, ça rebiquait un peu sur le bas.
Une vraie sucesse.
Avec des pattes.
Heidi.
Ah oui.
Et les pattes.
Exactement.
Et ouais.
Et oui, des pattes.
Les rouflaquettes.
Ah ouais, jusque là.
Punaise.
Et vous êtes un rocker en fait.
Non.
Non. Vous jouez dans un groupe de rock.
J'ai fait partie d'un groupe, oui, où on faisait un peu de rock, mais non, c'était pas. Non. Non, je suis un. Un rocker, comment dirais-je.
Il y avait encore Pierre Hackling dans le groupe?
Ah oui, il jouait de la basse.
Ah mais c'est votre pire pote, quoi. Enfin, si vous...
Ah bah oui, on se connaît depuis très très longtemps.
D'accord.
Et vous passez même à la télé avec un autre groupe, le Quasi Folklo.
Ah oui, ça, Quasi Folklo, on est passé... Alors ça, c'était le groupe acoustique, c'était effectivement après l'expérience Marcel Dadi. Et ça s'appelait Quasi Folklo, on est passé dans une émission de Patrice Lafont. Oui,
pour faire une chanson. Talents, ouais, c'est ça.
Oui, une chanson, le collectionneur de rêves.
C'était pas une chanson l'après-midi?
Si, c'était l'après-midi.
L'émission l'après-midi.
Et après, on est repassé en fin de saison parce qu'on a eu la médaille d'or.
Je me souviens très bien.
Non, vous m'avez pas vu.
Pas de vous, mais de l'émission,
non,
pardon.
De toi, non.
Ah. Non, je me souviens de l'émission. C'était une émission de variété qui avait lieu l'après-midi. Alors, je crois pas que ce soit tous les jours.
Non, c'était le jeudi après-midi.
C'est ça, qui était le jeudi des vacances des écoliers
et
des étudiants. Et je me souviens avoir vu Joël, la chanteuse de Il était une fois, qui était passée dans cette émission, parce que c'était la période de J'ai encore rêvé d'elle, et ainsi de suite. Et j'ai tombé amoureux de Joël.
Ah, tiens.
Mais
voilà.
Ouais, évidemment.
Une belle blonde.
Et pas de moi.
Comme par hasard.
Pas de moi.
Mais non, parce que comme blonde, ça ça me l'a pas fait.
C'est les roues flaquettes qu'on bloquait.
Ouais, il y a un truc.
Il y a la peau sensible.
Et quant à Daniel Russo, vous écoutez comme musique.
Tiens, tout a changé ce matin. Je n'y comprends rien. C'est la fête.
Et on va avoir droit à un scoop, parce que je suis pas sûr que tout le monde le sache.
Vous êtes Michel Fugain.
Pas loin.
On les a jamais vus les deux dans la même pièce.
Pas loin.
Le beau-frère de Michel Fugain.
Non, autre chose.
L'autre chose.
Le mec.
Le parrain.
Non. Le fan numéro un.
Le frère, le cousin.
On refait l'interro, ou quoi?
Oui, presque. Trouvé.
Le frère.
Le frère, le cousin, le fils.
Quel rapport? Le gendre.
Non.
Composé.
Il chante le sosie vocal. Il a un truc.
Vous êtes la mère de Michel Fugain.
Michel Fugain. Michel Fugain, c'est la fête. Écoutez.
Il chante dedans.
Oh, c'est vous êtes dans la bande de Basile.
Il danse dans,
il dans, la bande
dans
de Basile.
Le clip.
Dans le Big Bazaar. Le Big Bazaar.
Ça peut ah, pardon.
Le,
oui.
Le premier Big Bazaar.
Avec, alors le avec tout Mignati premier, ou pas du tout.
Le tout. Non.
Non
le tout premier. Non.
Elle y était.
Oui, mais après. Non, mais moi, c'est le tout premier. On répétait dans la grande salle de l'Olympia, en haut. Et c'était avant la première télévision du Big Bazaar.
Wow.
Et d'ailleurs, où
que
j'avais.
Vous n'avez jamais faite.
Et je ne l'ai pas faite parce qu'on m'avait proposé une pièce de théâtre. En revanche, j'avais amené Bernard Giraudot qui a fait cette première télé avec le Big Bazaar. Parce que lui, il dansait magnifiquement bien, il chantait aussi. Et donc, je l'avais entraîné un petit peu dans ce premier big. Et il a fait la première télé, moi je ne l'ai pas faite.
Et vous, milieu des années 70, Daniel Russo, vous intégrez la compagnie de théâtre de Jacques Fabry. Qui finalement
J'adorais.
Vous embarque avec lui et vous continuez.
C'est-à-dire
pas
que
le...
j'étais au conservatoire, on attendait les résultats de si on avait des prix ou pas. Et puis j'étais encore bien sûr avec Giraudot et avec Jacques Villeray puisqu'on se quittait pas. Et puis on voit Jacques Fabry qui s'approche de nous et puis il nous dit bonjour, il me tend la main, il me dit que vous ayez un prix ou pas, je m'en fous, je vous engage dans la compagnie à la rentrée et il me tend la main en septembre.
Là,
j'ai chopé la main, mais grave, très vite, quoi.
Je suis heureux qu'on parle de Jacques Fabry. Je trouve qu'on n'en parle pas assez de ce mec génial qu'il était.
Mais c'était un
comédien.
Directeur de troupe absolument extraordinaire. Je veux dire,
alors moi, je ne connais
très difficile
comédien,
parce qu'il te
que
parlait
comédien,
sur scène. Hein,
ah bon
parce que c'est lui qui m'a appris ça, avec le public, à l'écoute du public. Il nous parlait, il faisait vite. On les perd. On accélère. Non, il était sur scène.
Donc il faisait des apartés.
Oui.
Et dans le creux d'oreille pour vous diriger.
Quand il partait en coulisses comme ça. Il faisait des signes. C'était vraiment un truc de fou, quoi. Mais ce qu'il m'a fait, c'était incroyable. Quand je suis arrivé pour la première répétition devant toute la troupe, j'étais sur scène. Il m'a dit, voilà, tu as fait 3 ans de cours privé, t'as fait 1 an de rue blanche, t'as fait 3 ans de conservatoire, t'es sorti avec 4 prix, tu ne sais rien. C'est maintenant que ça commence.
Très bien.
Et il avait bien raison.
Il avait raison, ouais.
Ah oui.
Début des années 80, 80, 82, Didier Benureau, vous écoutiez... Excellent.
J'étais pas le seul à écouter ça.
C'est vrai.
On était nombreux.
J'en profite pour dire que le 14 juin, Sting sera dans ta ratata. Mais pour l'instant, c'est sur Internet. Non mais Sting quoi.
Bah
Sting,
oui.
Mec, il a pratiquement 70 ans et il a pas pris une ride. Il est beau comme tout. Je peux dire que quand il est venu sur le plateau, les filles, elles hallucinaient par son charme, sa gentillesse, sa politesse et son talent et sa voix qui. Alors là, on parlait tout à l'heure, Marina parlait de la
sexualité des Suisses.
Sexualité, non.
Et la décrépitude générale.
Et surtout de ce que la vieillesse apporte peut-être à la sensibilité ou à la sensualité. Et lui continue de dire, mais ma voix évolue encore plutôt que de faiblir. Quoi. Elle évolue et je chante mieux encore aujourd'hui que ce que je chantais à l'époque avec ces chansons-là. Qu'est-ce qu'elle vous évoque, cette chanson, d'ailleurs, vous, quand vous l'écoutez, Didier Benureau?
Mes cheveux.
Encore?
Le deuil.
Ça vous manque.
C'est terrible.
Oh, l'obsession.
C'est quoi le problème?
Les années 80. Non, ça n'a jamais été un problème. Au tout début, je me suis fait faire quelques piqûres. Mais en fait, ça a fait pousser mes poils et pas mes cheveux. Donc, c'était raté. Non, ça n'a jamais été un gros problème. Je dis ça parce que ça me permet de réfléchir à ce que ça m'évoque.
En même temps, ça doit pas être facile.
C'était début des années 80.
Ouais. Bah,
ce que ça m'évoque, c'est mes premiers pas dans ce métier. Enfin, d'essayer de faire ce métier, c'était pas facile. Moi, j'avais pris très peu de cours. Je me suis jeté à l'eau. Et donc, voilà, mais c'était un moment pour moi qui était très agréable parce que je découvrais ce que je voulais faire et tout à coup, je me sentais très bien avec ça. Oui, j'étais dans un rêve éveillé, oui. En fait, parce que j'avais compris que c'était ça que je voulais faire. Et c'était très agréable.
Et vous faites de la figuration au début des années 80 dans un film culte un peu quand même, c'est Garde à vue de Claude Miller avec Ventura.
C'était la première fois que je faisais de la figuration d'ailleurs.
Ouais.
Et je suis resté une semaine au studio d'Épinay, il y avait Lino Ventura, il y avait Michel Serrault, et j'étais en flic.
Et puis la comédienne quand même.
Et Romy Schneider.
Ah, oui. Non, parce que je ne l'ai pas vue.
Ah, vous l'avez pas
vue. Ah, il fallait dans le film.
Ah bah je sais bien, ah, non, oui. Je vous parle de ce...
Ah,
de, je rencontrais des acteurs
et vous n'êtes pas
que
venu...
j'admirais.
Et vous n'êtes pas venu les jours où vous ne tourniez pas juste pour le plaisir d'être sur le tournage? Par curiosité, pour observer.
Je ne me serais pas permis.
Ben ah moi, bon, je l'ai fait.
J'étais un petit figurant.
Ouais. Moi, je l'ai fait, moi, sur Le Juge et l'Assassin. C'était mon premier film, même quand je ne tournais pas, j'allais sur le tournage. Ah, je ne ratais rien.
Et vous, Didier Bignereau, je crois que vous aviez une scène qui a été coupée au montage.
Oui, j'avais une scène où je ramenais un clochard à Lino Ventura.
Ouais.
Et Claude Miller m'avait demandé de. Voilà, j'avais une phrase ou deux à dire. Et ça a été coupé, mais ça m'était égal. Ouais, enfin, ouais, je disais.
Dans Le Juge et l'Assassin, on m'a pas coupé
joie,
du tout.
J'imagine la joie d'annoncer à tout le monde que vous avez une scène dans le film et que vous vous rendez compte qu'elle est plus là, quoi. C'est ça qui est triste. Toujours.
Ah non,
moi, je pense
non.
À la peine.
Alors,
que ça doit faire aux
non.
comédiens.
Parce que, ouais. Mais non, je disais deux phrases. Non, ouais. Franchement, ça m'a pas.
Ça vous a pas peiné.
Non, ça m'a pas peiné du tout.
Mais c'était pas à cause de toi, de toute façon.
Ah, pas
c'était
du tout,
pas,
non.
C'était pas un jugement sur la qualité
de ce jugement. Voilà, voilà,
non,
voilà.
Parce que c'était.
C'est ça qui est important.
Non, c'est parce que c'est venu
pas,
de ce clochard. Non, ce clochard ne servait pas le film, ne servait pas l'histoire.
Daniel Osso, vous écoutiez.
Souviens-toi de moi. En cassette ou à l'Olympia.
Ah, écoute ça.
Y avait les filles pleines des coulisses. Tu roulais par terre.
Alors, si vous avez choisi cette chanson, c'est parce qu'elle raconte un peu votre histoire. C'est-à-dire du musicien qui parle à une star, à une idole, en disant « Souviens-toi de moi, j'étais ton guitariste, ton batteur, tu m'as oublié, toi t'es devenu connu, moi je le suis pas ». Et c'est l'histoire d'Henri Pordelilla. Vous projetez
la nostalgie totale de...
chanson de Philippe Timsit.
De Philippe Timsit, voilà, absolument. Et c'est absolument incroyable parce que c'est toute cette époque-là. Je trouve que cette chanson retrace bien cette époque.
Du golf de Rouault.
Le golf, bien sûr, parce que moi j'avais un mot de mon père pour rentrer parce que j'étais mineur, j'avais pas le droit. Et je les ai tous connus là-bas. Il y avait Johnny, il y avait Eddie Mitchell, il y avait
Dutronc.
Mais Dutronc était même pas chanteur encore, il était musicos.
Est-ce que Alain Chamfort, lorsque Dutronc était chanteur, Alain Chamfort était au piano pour faire les fameuses trois notes.
Ouais, et moi j'étais très timide, j'osais pas. Mais j'ai raconté ça à Eddie Mitchell quand on a tourné Le Bonheur dans le Pré. Je racontais avec mes yeux de gamin ce que je voyais, ce que je ressentais quand j'étais au golf.
Vous étiez amis avec eux quand vous dites j'ai fréquenté au golf.
Ah, non,
vous
non,
étiez
non,
dans le public, vous.
Ah, moi j'étais, je participais au tremplin le vendredi soir.
D'accord.
Parce que si tu gagnais le tremplin, tu passais le week-end et t'étais payé. J'ai jamais gagné le tremplin. Mais c'est pas grave parce que je suis passé avec plein de groupes.
C'était le prou,
Henri le prou. C'est-à-dire que quand je venais de jouer avec les copains, ils venaient me chercher, ils me prenaient par la main, ils me disaient bon Daniel, maintenant faut sortir, et ils me raccompagnaient à la sortie. Et mes copains, ils restaient à l'intérieur. Voilà.
Et 82, on vous retrouve à l'affiche de la Boom 2.
Oui.
Ça, c'est un gros rôle tout d'un coup. Ouais, c'est un carton, c'est devenu là aussi une saga hyper importante.
Oui.
Et ce qui oriente aussi votre parcours plus vers la comédie à partir de ce moment-là.
Oui, puis connaître Claude Brasseur, quoi.
Ouais.
Voilà, c'est ma première rencontre avec Claude. Et
ça a changé quoi?
Et ça a changé qu'après, je me suis retrouvé avec lui sur scène. C'est et ça, c'était quelque chose que je voulais absolument. C'est-à-dire que ça s'est fait d'une manière...
Daniel, je sens qu'il y a du dos.
Je vais le dire. Baffy me donne une pièce,
Jack Daniels,
et je lui dis, écoute, Brasseur, ce serait formidable. Il me fait, j'ai dit, écoute, je vais l'appeler quand même, on sait jamais, mais je l'appelle pas pour lui dire de jouer la pièce. Je lui dis, voilà, Claude, il y a une lecture, est-ce que tu peux être avec nous? Ça serait formidable parce que, comme ça, au moins, le théâtre peut prendre la pièce, quoi. Il me fait, oui, bien sûr. C'est ça l'amitié avec
Que pour la lecture, voilà, c'est ça. Viens que pour la lecture.
T'as un pote qui t'appelle, il vient. Voilà, voilà, ouais, ouais, bien sûr.
Quelle que soit l'heure.
Voilà, et il vient, il est au théâtre, comme ça, on se met sur scène et on fait cette lecture où il est formidable. Et le directeur, bien sûr, Michel Ambroso arrive et il lui dit, écoutez, cher Claude, on est tellement heureux de vous avoir dans ce théâtre.
Piégé.
Et Claude fait, mais je suis pas du tout venu pour jouer la pièce puisque c'est pour dépanner Daniel. Et là, il y a Baffi, il fait, bah, tu t'es fait avoir par Rousseau.
Il a pas dû parler comme ça.
Oui, il a pas dû parler comme ça parce qu'il a, c'est pas du tout ce qu'il a dit.
Mais c'était l'idée.
Et je lui dis à Claude, écoute, c'est formidable, non? Qu'est-ce que t'en penses? La pièce, elle te plaît? Il fait, bon, d'accord. Et il a joué la pièce, quoi.
Avec Nicole Calfan.
Avec Nicole Calfan, ouais. Magnifique.
Voilà. Ah ouais.
Qu'est-ce qu'on était heureux sur cette pièce.
En 1993, Didier Benureau, vous êtes sur scène et vous écoutez. Ah, il y avait de l'ambiance. Hein.
Pleine.
Ouais, sublime.
Vous voyez l'ambiance?
Des variations. Non, mais je blague. Vous les écoutiez en boucle, ces variations?
Ah oui.
Pour vous mettre de bonne humeur, pour vous détendre?
Ah non, ça m'embarque, les variations Goldberg par Glenn Gould, ça m'embarque.
Plus que le rock, vous dites?
Oui, plus que les... Oui, on parlait de... Every Breath You Take.
Police.
Police. Et... c'est vrai que la musique classique ne m'a... Comme j'ai pas été éduqué là-dedans, la musique classique... dans le meilleur des cas, je trouvais ça joli, charmant, mais ça ne m'emmenait pas. Ça m'a emmené. Les variations Goldberg, ça... Pardon.
Vous trouvez non, mais c'est... Ouais. Et vous êtes sur scène à cette époque-là, 93, pour votre one-man show. C'est votre deuxième. L'expérience seule en scène, ça, c'était nécessairement, pour vous, Didier Benureau, un accomplissement aussi dans votre carrière?
Pardon ?
Non, vous pouvez pas me faire ça, Didier Benureau.
C'est lié, mais y a pas de rapport direct entre les variations.
Non, mais c'est pas ça.
Non, c'était la période.
Ça illustre l'année. Ouais. Vous avez choisi cette musique pour 93 et 93. Moi, je vous dis ce qui se passe dans votre vie.
Absolument.
Et vous êtes sur scène, votre deuxième one man show.
Oui.
Qui sera pas le dernier, bien entendu. Mais c'est se demander quand on veut être comédien, on passe pas nécessairement par l'étape one man show.
Non, ça a été un hasard.
Ouais, pourquoi ça?
Parce que le théâtre, j'en parlais tout à l'heure, a proposé de me laisser la scène pendant 2 semaines. Et donc, j'ai imaginé ça pour écrire vite, d'être seul sur scène. Et je me suis lancé complètement par hasard et sans...
C'était pas un désir profond que d'être seul
non,
sur scène?
Non, c'était pas un désir profond. Okay. J'ai découvert que...
Et la méchanceté, elle vient d'où alors?
Non, il est pas méchant.
Elle est autour de moi.
Ah, voilà.
C'est parce que je suis très gentil. Alors je vois la méchanceté autour de moi.
Daniel Rousseau, vous écoutiez à ce moment-là.
Je n'ai besoin de personne.
Véronique Sanson, besoin de personne.
Et on vous retrouve, Daniel Rousseau, dans 9 mois de Patrick Braoudet. Oui. Vous avez coécrit le scénario, d'ailleurs.
Ah, je savais pas, ça, vous avez coécrit le scénario?
Oui, parce que à l'époque, je faisais du doublage. Et il y a eu la grève, une grève qui a duré 5 mois. Et puis ma femme me dit, écoute, tu nous rends dingue là maintenant, tu tournes en rond, on n'en peut plus. Donc chaque fois que tu racontes mes accouchements, tu fais rire tout le monde. Prends une feuille de papier et écris. Et ça a démarré comme ça. Et puis
parce que dans les dîners de potes à table, vous racontiez l'accouchement de votre femme pour faire rire la table.
Hein, ouais, bah, c'est des.
C'est classe.
Si je vous raconte les accouchements, je peux vous dire que c'est particulier ce qui s'est passé.
Donc,
j'avais même pas le médecin que je voulais, ni quoi, ni qu'est-ce. Il a accouché ma femme, qu'il était amoureux des taureaux. Il faisait olé, olé, comme ça. Et il m'a rendu fou, le mec.
Mais pourquoi vous n'avez pas été dans un hôpital pour faire ça? Il m'a rendu dingue.
Pourquoi les arrêts de Nîmes? J'y étais vraiment. Quoi. Il m'a fait peur, c'est un mec qui m'a fait peur, quoi, bien sûr.
Imaginez votre femme, le truc. Hein qu'elle a...
Non, mais c'est un truc de fou. Non, puis c'est vrai qu'après j'ai rencontré Patrick, au bout de 3 semaines, et puis il était sur un sujet analogue, il me dit on le fait ensemble, et puis c'est parti, et voilà.
C'est
une sacrée belle histoire, ça.
Valérie Gerlin, merci de venir à ce micro.
Monsieur.
Vous êtes comédienne, voix off, prof de théâtre, coach également, auteur de petits manuels à l'usage de ceux pour qui l'oral est un cauchemar, au livre de poche. Depuis 10 ans, vous animez des formations en entreprise et des stages dans les collèges et les lycées pour être à l'aise à l'oral. Pour parler de cette pièce, le crédit, comment qualifier un tel face-à-face d'abord? Est-ce que ça...
C'est un magnifique coup de poker entre deux personnages très très forts. L'un, le conseiller, il parle en euros, c'est tout ce qui l'intéresse.
C'est vrai.
Il y a l'euro et puis il y a les cases. Et puis si ça rentre pas dedans, eh ben pas de crédit. C'est un peu ça. Malheureusement, j'ai pas pu venir voir votre pièce parce que j'avais aussi des répètes de mon côté. Mais je vais venir parce que j'ai craqué complètement à la lecture de la pièce. Je l'ai lue entièrement. Et j'adore ces deux personnages parce que, en fait, le personnage de Daniel, c'est le personnage qui se chacalise. Vous savez ce que ça veut dire, chacaliser?
Bon, ça y sait.
Les mots chacal. Les mots chacal, qu'est-ce que c'est? C'est se dire je suis nul, je n'y arriverai jamais, je suis un abruti total.
Ah non, c'est pas, ça, vous du pas ça du tout. C'est pas ça du tout, Mélanie, pardon.
Ah bon? Vous avez un autre chacal?
Non, il vient de me traiter de chacal.
Il pensait
que je dirais jamais. Jamais je peux penser un dixième de seconde que je sois
nul. C'est négatif, quoi.
C'est la pensée négative sur soi-même. C'est-à-dire que souvent, ça vient de l'enfance où on a entendu mais mon pauvre chéri, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de toi? Et on se l'approprie, on devient je n'y arriverai jamais. Donc, moi, c'est la base de mon travail, c'est la base de mon livre, c'est la base de mes stages. Ça fait 17 ans que j'ai monté une école de théâtre. Donc voilà.
Alors, moi, c'était ça la question, pardon. C'était la force du propos, la force de l'éloquence et de la parole.
Oui.
Ce que fait le personnage de Didier Bénureau quand il déstabilise le banquier.
C'est énorme.
Est-ce qu'on peut vraiment réussir à retourner une situation avec le verbe?
Oui. Oui, mais pas que. L'éloquence, c'est bien, mais c'est pas tout de suite que ça se passe, l'éloquence. D'abord, il faut avoir les corones. Il faut avoir le culot.
Le courage,
Il faut oser, c'est très important. Et moi, je travaille là-dessus, sur le fait de pouvoir oser prendre la parole. Parce qu'avant d'être éloquent, il faut ouvrir la bouche. Et tout le monde n'ouvre pas la bouche.
Que certaines personnes s'écoutent beaucoup parler et qu'il n'y a pas que le mot et le verbe, il y a aussi le propos. Quoi.
Exactement. En tout cas, ce qui est très très fort aussi dans cette pièce, c'est que tout va se passer dans la suggestion d'idées. Antoine, c'est comme ça que s'appelle votre personnage.
Antoine
commence les phrases, et puis, comment il s'appelle votre personnage d'ailleurs?
Le banquier,
il n'y a pas de nom.
Grégoire.
C'est Grégoire, à un moment Grégoire. Il dit Grégoire.
Grégoire Valentini.
Parce qu'il regarde dans les yeux, il lui dit Grégoire.
Ah, d'accord.
Il le laisse imaginer la suite. C'est-à-dire
exactement,
que, voilà,
mais ça c'est une stratégie hyper fine. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que le client, il va prendre le pouvoir parce qu'il est passé à l'action, tout simplement. Il est passé à l'action, il a été jusqu'au bout pour avoir son crédit parce que c'était question de vie ou de mort. Il le veut, il va faire tout ce qu'il faut. Et c'est ça le problème du conseiller, c'est qu'il n'a pas confiance en lui, n'est-ce pas? Il n'a pas d'estime, il a des failles, il a des fragilités. Et ce sont ces fragilités sur lesquelles le client va tirer sa flèche.
Alors ce que Absolument. Vous dites, Valérie Garlin, dans votre petit manuel à l'usage de ceux pour qui l'oral est un cauchemar, et il y en a malheureusement de plus en plus, et il y a malheureusement des situations où on a de plus en plus besoin de savoir se vendre pour un entretien d'embauche, savoir s'exprimer en public, présenter un dossier ou un PowerPoint pour faire une force de vente, vous dites que le regard, la gestuelle, les émotions, l'énergie, la respiration, la visualisation, l'écoute, la distance,
Tous ces éléments-là
sont essentiels. Parlez-moi de la distance, justement. Le fait qu'ils soient tous les deux séparés par à peine 80 cm d'un bureau, ça joue?
Ça joue, oui, ça joue, mais je ne pense pas que ça soit le plus important.
C'est quoi, la posture, alors?
C'est la posture. C'est le regard, droit dans les yeux. C'est le sourire. C'est le calme.
Ouais, dit-elle avec un petit sourire.
C'est le calme. Daniel, pardon, Grégoire, je ne sais pas, parce que moi, Daniel, je l'adore.
Okay,
depuis que j'ai failli accoucher avec 9 mois dans le cinéma.
En Espagne.
Non. Ah oui. J'étais enceinte au moment de 9 mois, j'ai failli accoucher dans le cinéma.
De rire. Génial.
Bien sûr.
Génial.
Et donc, oui, c'était quoi la question, Nagui?
C'était
le sourire, était super longue, en
la
fait.
Posture,
bah, pouvez,
la posture.
Oh, non, pardon. Un petit peu de respect. Hein.
Je pense que vous êtes bien trouvés tous les deux.
Ouais, non, mais je rêve. En plus,
on parlait de posture.
Oui, la posture, c'est important. Mais ce qui est le plus important, c'est d'être sincère. C'est d'aller dire aux gens ce qu'on a envie de leur dire. La plupart du temps, on est mal dans sa peau, on n'arrive pas à s'exprimer à l'oral, parce que justement, on ne s'aime pas. Ça, donc on va aller chercher dans le regard des autres un peu d'amour, on va aller chercher dans le regard des autres de la reconnaissance, de l'attention, etc., etc. Et en fait, dans votre duel, dans votre magnifique coup de poker, ce qui est intéressant, c'est que il est presque, on a envie de l'embrasser presque, le client, on a envie de lui dire « Ah oh, !» Comme vous êtes jolie, comme vous me semblez beau.
Oui, non, mais c'est le serpent du livre de la jungle, quoi.
C'est exactement ça.
Et sournois.
Ouais, et comparé au sanguin qui pète le feu et qui ne s'aime pas, et qui doute de la fidélité de sa femme, il va croire tout ce que va lui dire son client.
Il est bien déstabilisé. Oui.
Merci Valérie Garlin. Le petit manuel à l'usage de ceux pour qui l'oral est un cauchemar, c'est un inédit au livre de poche. Oui, Tanguy Pastureau à l'oral, il est à l'aise. Bonjour Tanguy.
Ça dépend des jours.
Vous allez nous parler justement de l'appel de Christchurch,
pardon. Oui, c'est un accord que Macron a élaboré avec la première ministre néo-zélandaise pour tenter de limiter la haine sur Internet, les vidéos de tuerie, l'extrémisme. Donc, à part la chaîne YouTube des pyjamasques, il va pas rester grand chose. Un Christchurch, il y a 2 mois, c'est là où un attentat terroriste avait fait 50 morts dans une mosquée.
Et ça sera après les infos de midi. En fait. Avec Lila Kanoudjani, Marina Rollman, Tanguy Pastureau,
bonjour.
Daniel Morin,
bonjour, Marina.
Tom Mila,
bonjour.
Et nos invités Didier Benuro et Daniel Russo.
Bravo.
Vous êtes bien trouvés tous les deux. Hein. Je trouve que je ne sais pas qui a décidé du casting et comment vous êtes trouvés, qui est allé chercher qui. Mais le duo, le binôme, le duel, appelez ça comme on veut, fonctionne extrêmement bien entre vous deux. Et même si, comme on peut le voir là dans le studio, vous n'êtes pas amis dans la vie, sur scène en tout cas, c'est absolument...
Mais jusqu'au salut.
Vous n'êtes pas amis dans la vie. Mais,
non, pas du tout.
Voilà.
Non, non.
Mais,
Daniel, les saluts. Là aussi,
salut, hein.
Le spectacle continue.
Il m'a fait mal à la main hier soir. Il m'a serré la main, il voulait plus me la lâcher.
On dirait un vieux couple.
C'est exactement
non, mais vraiment,
ça.
Quoi.
Et il y en a un qui appuie sur l'épaule de l'autre.
On vit en couple tous les soirs.
Voilà. Et ils se font des crasses jusqu'au salut. Le public est mort de rire. Il y en a un qui appuie sur l'épaule de l'autre, l'autre qui tire la main, qui lève la main en l'air. Enfin bon, c'est un truc.
Ah oui. Ouais. Vous mettez des pots de banane pendant la pièce ou pas?
Ah non, non, ah non, rigueur.
Okay.
Ah non, on peut pas.
Pas d'improvisation, rien,
non,
pas
non,
de surprise.
Non, rigueur.
Il y a envie de rire un peu parfois
non,
ou pas?
Non, 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 non. Avec Didier, très
peu arrivé. Peut-être une fois ou deux.
Un œil qui brille.
Ouais, c'est très peu arrivé.
Et pardon, et le trou de mémoire, ce à quoi on pense,
ah oui. Ah oui, ça arrive, ça.
Nous tous qui n'avons pas été bons à l'école.
Non. Oui, c'est arrivé un tout petit peu, mais c'est des hésitations, c'est des trous de mémoire qui durent.
C'est un
très
mot pour un
temps.
Autre. Ça peut être un mot pour un autre.
Ça, c'est moins grave. Le problème, c'est que si vous attendez une réplique pour pouvoir vous enchaîner, parce que l'effet venait justement du rapprochement des deux répliques, comment faire? Voilà, il en manque une.
C'est pas grave, ça fait un effet de loupé, mais comme il y en a beaucoup, c'est pas grave.
D'accord, c'est vrai, il faut le prendre comme ça.
Il est positif.
On est dans le bureau d'un conseiller clientèle d'une banque. Le client étant Didier Benuro vient demander un crédit. Il n'est absolument pas client de cette banque, il n'est absolument pas solvable, il n'a aucune garantie possible, imaginable. On découvre d'ailleurs plus tard dans la pièce quel est le montant et l'importance de ce crédit qu'il réclame. Mais l'effet, le réel effet, c'est le refus du banquier. Qui est joué par Daniel Russo. Et on l'a dit, on a un tout petit peu divulgué les 5 premières minutes. Le premier effet est de dire « Si vous ne m'accordez pas ce crédit, je séduirai votre femme, je coucherai avec elle et elle couchera avec moi. » C'est-à-dire on sera tous les deux d'accord, tous les deux amants, à moins que vous me donniez cet argent. Un chantage fou.
Exactement.
Un chantage improbable et qui va aller crescendo. C'est-à-dire, on a l'impression d'être déjà très haut dans le chantage. Ça ne va pas s'arrêter jusqu'au bout. Et la victime, entre guillemets, est Daniel Russo. Sauf que les rôles s'inversent au fur et à mesure. Au début, vous êtes victime parce que le banquier ne veut pas vous donner le crédit. Et vous devenez le...
Ah ben moi, je joue avec lui. Je m'amuse avec lui. Je lui explique d'ailleurs comment je vais la séduire.
Avec un calme, avec ce même calme-là.
Mais oui, lui explique que je vais la croiser dans la rue, que je vais lui demander un renseignement, que je vais revenir, que j'ai un don avec les femmes. Enfin, je le baratine, je raconte n'importe quoi pour l'embobiner.
Finalement, celui qui a le pouvoir, c'est pas tant celui qui a l'argent, c'est aussi la moralité
au départ,
de la pièce.
Moi, je fais
c'est celui qui sait manier le langage.
Hein, c'est aussi
et c'est celui qui n'a rien à perdre.
Non, absolument.
Oui, et Daniel
Moi,
Rousseau,
j'ai rien à perdre.
Vous avez rien à perdre, et Daniel Rousseau a raison. C'est aussi une
satire sur les petits chefs.
Une satire sur les petits chefs, sur ceux qui
usent leur
autorité.
Le gars qui est derrière son bureau, qui pense qu'il a tous les pouvoirs.
Oui.
Et il n'est rien.
L'auteur se fout de la gueule des banquiers.
Non, non,
j'ai bien entendu ça.
Surtout, des petits chefs, surtout. C'est important.
Oui, parce que ça marcherait aussi dans d'autres domaines, c'est
bien
simplement.
Sûr.
Parce que c'est pas son argent au banquier en question. Il a simplement, lui, le pouvoir de la signature. Et vous lui dites d'ailleurs, faites-moi confiance. Ça vous est déjà arrivé dans la vie de faire confiance à quelqu'un que vous ne connaissez pas juste pour avoir ce plaisir humain de faire confiance à quelqu'un?
Ah oui.
Ah, non, oui, c'est pas une question, je reprends ce que vous dites dans la pièce.
Ah, pardon.
Non, je reprends, c'est ce que vous lui demandez dans la pièce. Il va bien. Moi, je l'ai connu du début du rôle, il était plus.
Oui.
C'est bête, mais... hein, ça se joue à un quart d'heure. Hein.
Mais quand est-ce que je dis ça
tout se passait bien.
Il va tenir un quart d'heure.
Mais si vous lui dites. Parce que d'ailleurs, il vous rétorque que lui, vous lui dites bien, vous faites bien confiance à votre femme sur le fait qu'elle a été fidèle ou pas fidèle.
Oui, c'est ça, c'est ça.
Et vous commencez par cet argument-là.
Vous jouez ce soir ?
Non, mais c'est incroyable.
Dans le texte, Didier.
On va répéter.
C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai,
non, mais
c'est
vrai.
Absolument
non,
par rapport non, à sa femme.
Me dis pas que je me souviens mieux de la pièce que vous.
Non, c'est invraisemblable, Didier. On va répéter.
On fait
une
italienne,
une allemande.
Ah ouais, sa femme, oui. Non, mais parce que je fais le parallèle avec sa femme.
Je viens d'avoir...
Vous étiez plus en forme quand vous jouiez dans la boum.
La Comédie des Champs.
Je viens d'avoir la Comédie des Champs-Élysées qui veut être sûr que vous serez là le 29 mai après avoir répété.
Oui, avec le texte, moins, mais...
D'accord, ok, c'est l'essentiel. Voici Tanguy Passion. Tanguy, l'homme est souvent méchant.
Oui, c'est une réflexion partagée aussi bien par le philosophe Thomas Hobbes qui a dit « Homo homini lupus est », ce qui ne signifie pas « j'ai un pote qui a un lupus », même le pharmacien a dit « ah ouais zut », mais l'homme est un loup pour l'homme, que par les différentes Miss France qui chaque année nous disent qu'elles détestent la violence, l'hypocrisie et la guerre. À ce moment-là, on sent que si le boss de Dassault déboule tout sourire, les Miss préféreront se taper Jean-Pierre Foucault, quitte à réenclencher toutes les 4 minutes le grippin géant dans lequel il vit. Elles ont raison, l'amour c'est super, on a le cœur qui bat, des papillons dans le ventre, on sent tout ce qu'on a à l'intérieur bouger sans avoir à faire de coloscopie. Après, on peut quand même faire une pour le plaisir, en plus c'est remboursé. À la même chose dans un club, vous payez l'entrée plus de conso, une pour vous, une pour la personne. Mais l'être humain ne veut plus de l'amour. À la place, il étale sa haine inlassablement, à longueur de tweets. Il faut lire les messages de haine que moi je reçois. Parfois on m'écrit « bravo, bonne chronique » alors que cette dernière était excellente. Alors hier, histoire vraie, on apprenait qu'en Malaisie, ce pays qui, selon les types qui confondent Malaisie et Indonésie, nous a donné la chanteuse Angoune, une ado avait fait un sondage sur Instagram demandant à ses abonnés si oui ou non elle devait se suicider. Instagram, c'est un réseau social où normalement on est bienveillant, hein. On y voit des stories avec des gens qui ont le filtre lapin. La seule Cyril Lignac se dit « je ferais bien un civet ». Et bien 69% des gens ont voté pour sa mort. Du coup, la jeune fille s'est suicidée. Et ça n'a rien de typiquement malaisien. Le même sondage en France, le résultat sera le même. À Rome, pour les Jeux du Cirque, à part si vous aviez tué 4 lions, 2 vipères et un gladiateur sosie vocal de Céline Dion, les spectateurs votaient la mort. C'est humain, c'est ainsi que nous sommes. Pourquoi pensez-vous que j'aime la solitude au point de fréquenter les meetings de Benoît Hamon ? Alors hier à Paris, le président Macron a donc lancé Tech for Good. Rien à voir avec le tech, le bois. Hein, il ne bosse pas chez Pierre Import. Il devrait, il serait peut-être super. Hein. Non, tech pour technologie. Il veut du positif sur le net, là où les pulsions morbides de chacun sont exacerbées. C'est comme tenter de faire chanter Happy de Pharrell Williams à Marilyn Manson. Ou pour nos auditeurs qui ne sont plus tout jeunes, dans la vie, il faut pas s'en faire de Maurice Chevalier à Alain Juppé. Hein, Macron a donc lancé l'appel de Christchurch avec la première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern. Alors Christchurch, c'est là où il y a 2 mois, un suprémaciste blanc a massacré 50 personnes dans une mosquée en diffusant la tuerie sur Facebook Live. Hein, il avait fallu un temps fou pour Facebook supprime la vidéo. Si Janet Jackson nous sort le téton gauche, on a déjà vu le droit, donc ouais. Ça ferait comme un puzzle. Zuckerberg déboule chez elle dans la seconde et la pend, mais un psychopathe qui sème la mort en live, ça passe. Alors ils ont fini par sortir les doigts, hein, ce qui n'est pas simple parce qu'en même temps ils s'en servent pour cliquer, et Facebook a retiré la vidéo 1,5 million de fois.
C'est dingue ça. Avec à chaque fois une grosse audience évidemment pour ces
bien
vidéos.
Sûr, bien ouais. Sûr, autant une vidéo de Claude Barzotti qui se fait épiler le torse afin de faire 14 oreillers pour sa femme. Bah, personne ne mate ça. Autant une vidéo sur une tuerie, ça excite les gens. Dans les 24 heures qui ont suivi l'attentat, elle était remise en ligne chaque seconde sur YouTube. En Nouvelle-Zélande, des milliers de personnes ont contacté la cellule psychologique mise en place après l'avoir vue. Mais il faut commencer par ne pas regarder ça les mecs. D'autant que le contenu n'était pas masqué, on n'était pas sur une vidéo de massacre intitulée « L'âne trottoir enfile le slip de sa sœur » pour tromper l'internaute. Enfin, moi, je vois passer une vidéo intitulée « Meurtre », je la ferme direct et je manquis 17 épisodes de Bob l'éponge pour retrouver foi en l'âme humaine. Ce qui est totalement con, puisque Bob est une éponge. Donc, à la fin, je n'aurai foi que dans les éponges. Je me sentirai bien que quand je fais la vaisselle. Mais je suis désolé, mais plus jamais on ne parle du libre-arbitre, comme si on était tous des victimes. Mais on choisit aussi parfois de pas regarder. Ouais. Moi qui suis sensible, déjà une vidéo avec une youtubeuse acnéique qui s'éclate un bouton, je convulse. Bah, je peux vous assurer que j'ai jamais vu une vidéo mettant en scène la mort de quelqu'un. Enfin, on n'est pas juste des pions qui bouffons le contenu de Facebook, la bouche ouverte. Alors, en attendant, Macron et les boîtes du numérique ont signé un accord contre la violence sur Internet. Accord non contraignant. Autant vous dire qu'il va rien se passer. Hein, les accords sur le climat aussi sont non contraignants. Ben, il reste 3 ours polaires affamés sur moins de glace qu'il y en a dans le freezer de ta tante. Hein, mieux, l'appel de Christchurch, les États-Unis ne sont même pas dedans. Ils sont observateurs. Ça revient à rien faire. Je peux en parler au collège en sport pendant 4 ans, j'étais observateur. Hein, j'ai pas touché un ballon de hand. Or, Facebook, Twitter, Instagram et toutes ces petites crottes qui nous pompent la moitié de nos vies, elles ne sont pas guatémaltèques. Hein, sinon, il y aurait plus de photos de guacamole et moins de vidéos de tuerie. Elles sont américaines. Enfin, Facebook, lancé par des anciens du Larzac, à part des vidéos sur la traite des chèvres ou le truc le plus hard à voir, ça aurait été José Bové qui n'arrive pas à trouver la mamelle. Ça allait, hein. Bref, il faut pas se leurrer. Les types ne feront rien. C'est à nous de réagir et d'apprendre à ne pas cliquer. Je suis sûr que quand on vous dit il y a 50 morts, on n'a pas besoin de les voir. Hein. Si on écoute juste, c'est déjà parlant. 50 morts. Allez, moi je retourne voir Bob l'éponge.
Merci Tony Pichot. La bande originale, Mehdi, sur France Inter. Il a totalement raison, ouais. C'est à nous de garder un peu de jugeote dans tout ça. D'ailleurs, les réseaux sociaux, vous y êtes ou pas, Daniel Russo?
Oui.
Sur Twitter, Daniel.
Twitter, oui. Oui, non.
Instagram aussi.
Oui, j'aime bien.
C'est vrai? Ouais. Ça vous sert à quoi? À communiquer pour votre métier ou vous
Non, moi j'aime bien tout ce qui est artistique, oui, absolument.
D'accord.
Oui.
Didier Benureau, vous m'avez
pas,
dit
pas que... tellement, non.
Pas tellement, c'est pas du tout, je même crois, ça s'appelle le pas
je
tellement.
Je suis sur Facebook, mais je m'en occupe pas.
C'est pas vous, en fait.
Non, c'est pas moi.
D'accord. Comment vous êtes tombé sur cette pièce, Le Crédit, signée Jordi Gafferan, et qui est ce
Le
catalan.
Metteur en scène. Éric Sivagnon.
Non, mais qui est ce catalan, d'où il vient? Alors, l'auteur. Donc, c'est le metteur en scène qui est venu vous chercher, mais qui est l'auteur?
Qui est l'auteur?
Oui.
Eh bien, un auteur catalan qui a écrit...
D'accord, ouais. Il vient d'où? Il a fait quoi?
Il a écrit la pièce de théâtre. Aussi, oui. Ouais, et ouais. Il a réalisé un film sur le monde du travail.
J'ai l'impression de vous choquer avec cette question-là, parce que moi, je ne connaissais pas ce monsieur, et je le trouve tellement drôle. Je me dis, je m'attendais à ce qu'on m'expliquait que, soit, je ne sais pas, c'est la énième pièce qui a été reprise de lui en France.
Non, mais il a écrit assez peu, en fait, cet auteur.
Oui.
Il a fait une pièce sur le monde du travail, je ne sais plus le titre.
Aussi désopilante que celle-là?
En tout cas, ça a fait un succès mondial, m'a-t-on dit.
Ah, vous ne l'avez pas lu?
Non, je ne l'ai pas lu.
D'accord, c'est bien.
Non, puis le crédit marche très très bien en Espagne. Pardon? Et en Italie.
Ah, d'accord.
Ok, donc c'est une pièce en ce moment qui est adaptée dans
et
plusieurs pays.
L'acteur
à la fois.
Italien est venu nous voir.
Ouais.
Il nous a fait la surprise à la sortie. Il a dit c'est moi qui joue le rôle en Italie. Voilà, il est venu nous voir,
voir la pièce. Vous lui avez demandé de le prouver, parce que quel Italien pourrait vous le dire. Et...
Oui, c'est vrai, non, mais ça, je savais que c'était ça, lui.
Ok, d'accord. Daniel Russo, Didier Benureau, c'est à la Comédie des Champs à partir du 29 janvier, du 29 mai, pardon, prochain. Ça a commencé en janvier, c'est ça, ce que je voulais exprimer. Et ça s'appelle Le Crédit, une pièce écrite par un auteur que ne connaît pas Didier Benureau, interprété par
c'est
des...
C'est faux, c'est moi qui le connais le plus.
Interprété par des comédiens en Italie que connaît Daniel Russo, c'est très compliqué, mais allez les voir. En tout cas, ça s'appelle Le Crédit, c'est extrêmement drôle avec cette histoire de face à face, le pouvoir de la parole, la force de l'oral. D'ailleurs, Daniel Morin,
oui,
c'est ça, la force de persuasion, l'éloquence, ce qu'on a évoqué tout à l'heure avec Valérie Gerlin. C'est essentiel dans notre société, c'est même la signature, c'est le miroir de notre âme que l'on renvoie finalement à l'autre quand on exprime.
Nom de Dieu. Vous savez ce que je vais vous renvoyer, le sarrasin? Non, mais je vais vous renvoyer l'extincteur du studio, moi, en pleine gueule! Ça ou la bouteille géante de Calva Poppers que Leila garde dans son sac à drogue.
Oui.
J'en peux plus de vos niaiseries affligeantes et plus cucu les unes que les autres. Ah, oh, j'ai honte.
Mais...
J'ai mal.
Mais...
Vous savez ce que vous êtes? Vous
Quoi?
Êtes la gastro de l'interview. Ça sort d'un seul coup et ça pique. Et le pouvoir de la parole, gna 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 gna, et l'importance de l'éloquence, ni 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 ni, et le miroir de notre âme, ni 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 ni. Mais putain, mais prenez-le donc, ce foutu miroir, et regardez-vous. Attention, je vous préviens tout de suite, le spectacle est vilain. Vous qui avez la chance de ne pas vous voir, le choc va être cinglant. Vous êtes d'une laideur giclante, monsieur Guy, un vrai geyser à dégoût. Et en même temps, en matière de tchatch, je sais que vous êtes un connaisseur. Vous êtes éloquent comme une poissonnière sur le marché. Vous êtes convaincant comme un curé qui parle à un scout. Mais vous êtes aussi inefficace qu'un muet qui crie au feu. Et puis à propos d'oralité, tiens, un petit défi que je vous lance. Fermez-la. Pourquoi une telle proposition? Alors oui, déjà, pour me reposer les nerfs, mais aussi et surtout parce que la parole ne sert à rien. C'est du bruit, c'est du dérangement. Parler, ça sert à que dalle. Ce qu'il faut, c'est agir. Et agir, c'est quoi? C'est cogner quand on n'est pas d'accord et faire l'amour avec l'autre quand on est content de le voir. Le vrai échange humain ne passe que par les extrémités, les points et le zizi. Voilà, ne faites pas votre choqué, c'est exactement de cette façon que vous gérez vos stagiaires. Alors, hein, arrêtez avec vos mines. Hein. Désolé, mon pauvre gars, vous mon pauvre monsieur ça, Guy. Une fois encore, vous avez dit...
N'importe quoi.
Eh oui.
France Inter, la bande originale.
Encouragez.
Avec Nagui.
C'est le public qui est responsable, c'est eux qui t'encouragent, espèce de voyou.
Parce qu'il doit faire.
Ouais, c'est ça. Le crédit, donc l'histoire de ce face-à-face, de ce retournement quand même de situation, retournement de pouvoir, parce que le premier à avoir du pouvoir, c'est le banquier derrière son bureau, parce qu'il est en position voilà, de force, et même d'ailleurs dans la posture, physiquement, la manière dont vous vous tenez en scène évolue aussi. Pendant cette heure et demie.
Moi, ce qui m'a plu, justement, quand j'ai lu la pièce, c'est-à-dire que...
Ah, vous, vous l'avez lu, parce que Didier Bellureau...
Non, il n'a pas lu. Mais c'est de partir d'un personnage comme ça, on peut se dire qu'il est... Il est irréprochable et qui fait très bien son boulot et qu'il a aucun problème dans sa vie et qui... Bon, et que, d'un seul coup, au fur et à mesure de la pièce, il commence à tomber, quoi. Les failles arrivent de plus en plus comme ça.
Oui, il s'effrite, il s'écroule.
Totalement dans une faiblesse comme ça qui fait qu'il essaye de pas le montrer. Et même le coup de téléphone à son frère fait qu'il est presque au bord des pleurs. Il revient, il essaye d'un seul coup de revenir, de pas se noyer, quoi. Mais c'est ce personnage qui d'un seul coup, il y a un vrai chemin là sur le jeu.
Et après avoir Didier Bellureau, après avoir dit clairement au banquier l'urgence, la nécessité, le côté essentiel de ce crédit, j'en ai besoin, c'est essentiel d'essayer de le toucher humainement. Ça n'a pas marché. Il ne cède pas à ce besoin vital. Et là, d'un coup. Donc il y a cette bascule et presque on parlait de faille. Vous allez en lui parlant simplement comme un psy finalement lui faire avouer quelles sont ces failles dans lesquelles vous allez vous engouffrer.
Ah oui, complètement. Oui, je l'invite à parler et je le conseille.
L'histoire de son frère finalement vous tentez.
Ah oui. Oui, c'est ce qui lui arrive. C'est-à-dire que moi, mon personnage. Se rend compte rapidement qu'il y a un problème et j'arrive dans une situation qui est déjà pas très normale, enfin son couple fonctionne mal, moi je ne le sais pas.
Mais lorsque vous dites presque, entre guillemets, n'importe quoi, juste comme ça pour donner un exemple, lui va vous dire mais comment vous le savez ? Et donc comme là vous savez que quelque chose est vrai, bim.
Exactement, je rebondis là-dessus.
Ah bah là vous vous souvenez du texte là, pardon. Et là...
Je rebondis là-dessus et je le fais parler, effectivement, et je le conseille.
C'est là où les rôles s'inversent.
Mon personnage est très humain.
Il devient conseiller clientèle, mais l'autre clientèle.
Oui, exactement.
Vous dites qu'il est très humain, vous.
Ah, je trouve qu'il est très humain, oui.
À ce moment-là, un tortionnaire est très humain, si vous avez parlé.
Non, parce que moi, je ne suis pour rien dans sa situation, dans son couple.
Oui, mais vous appuyez là où ça fait mal.
Vous exploitez la misère.
Mais t'appuies où ça fait mal, quand même. Attends, tu le rends dingue.
J'appuie où ça fait mal, mais quand même, je...
Non, c'est pas un mec bien. C'est pas un mec bien. C'est pas un mec bien.
À chaque fois, je peux avoir mon crédit. Il faut quand même dire ça. À chaque fois, je peux avoir mon crédit.
Il va nous dire que son personnage est sensible, il est humain et tout ça.
Ah oui, beaucoup plus que toi.
Jamais de la vie.
Son personnage est complètement borné, il faut reconnaître, quand même, il est totalement borné. Alors que le mien est beaucoup plus sensible, beaucoup plus humain.
Beaucoup plus beau.
Beaucoup plus généreux. Beaucoup plus beau et moins gros.
Vas-y, dis-le.
Non, là, ça y est.
On y revient.
Non, mais c'est vrai que je suis pas le... Non, mais c'est vrai que mon personnage n'est pas obsédé par son crédit. Il cherche à t'aider... Il te console.
Non, tu lui fais du mal. Mais non, tu lui fais du... Il a rien compris à la pièce.
Ouais, mais c'est écrit en espagnol aussi. Donc.
Ça s'appelle Le Crédit. C'est extrêmement drôle. Le metteur en scène est venu voir lequel des deux le premier pour appeler l'autre après.
Je pense que c'est moi ou toi. Ah bon, je ne sais pas.
Les deux lèvent.
J'ai l'impression que Nagui, tu veux pas qu'ils aillent à la Comédie des Champs-Élysées.
Si, tu veux.
Si, mais je pense qu'un metteur en scène, d'abord, physiquement, matériellement, il peut pas appeler les deux en même temps. Donc il y a forcément eu un premier. Oui. Et puis, sûrement, je suis sûr que la présence, par exemple, de Daniel Russo a dû, vous, Didier Bellureau, vous encourager
pas du tout.
À accepter une pièce sans la lire. Accepter une pièce sans la lire. C'est ça
que... Bien sûr que j'attendais le contraire.
Qu'allez-vous faire ensuite ? Avez-vous déjà des projets, Daniel Russo ?
Je pars en tournée avec Corinne Touzet et Lou Denis et Lyon dans la pièce « Alors on s'aime » que nous avons jouée au Théâtre des Variétés cet hiver.
Très bien.
Voilà, à partir d'octobre jusqu'à janvier.
Et déjà. Cet été, rien, pas d'Avignon.
Ben, j'aurais bien voulu y aller, mais comme on va jouer sur Paris, il n'y a pas d'Avignon.
Ah, parce que oui, on a dit que c'était à partir du 29 mai, et y compris tout l'été.
Ah ben, au moins déjà jusqu'à fin juillet.
Génial. Non, et, c'est important
et
de
si
dire.
Si ça marche comme ça marche,
il y a pas beaucoup de.
On va peut-être faire mois d'août.
Très bien, très bien.
T'es pas au courant, mais c'est pas grave.
Il se voit déjà.
Non, mais on te le dira.
Moi, j'ai loué une grande villa.
Non, mais on te le dira.
Sur une île en Grèce.
Tu vas pas passer les vacances, tu rigoles ou quoi?
Ah si, moi j'ai besoin de vacances.
Didier Bignoureux à la rentrée, vous avez prévu quelque chose?
Non, pas tout de suite à la rentrée, mais sur la saison prochaine, on va tourner avec le CV de Dieu, avec Jean-François Balmer.
Que vous aviez joué à Avignon d'ailleurs.
Ouais.
Qu'on avait joué à Avignon et au Théâtre de la Pépinière.
On en avait parlé ici avec Jean-François Balmer, si ma mémoire est
bonne. Absolument, absolument.
Absolument. Puisque vous aviez refusé de venir à l'époque à ce micro.
Comment ça? Mais c'est totalement fou.
Totalement, c'était juste pour voir si vous suiviez. Des excuses à présenter, Daniel Morin.
Oh oui, plein. Désolé déjà pour Daniel Russo, mais moi j'aime pas le mensonge, monsieur, et je vais vous dire ce que pense vraiment Nagui de la pièce, de votre jeu, de votre carrière et de vous. Alors pour faire court, il parlait d'arnaque, de textes mal maîtrisés, de blagues gênantes et de souvenirs encore plus gênants pour lui à base de romances de jeunesse avec un certain Didier, une jolie blonde qui portait des rouflaquettes et qu'il a beaucoup, mais beaucoup aimé. Désolé pour Didier Bignoureux qui, on l'a bien compris, déteste les vieux dans le public de ses spectacles et se retrouve ce matin sur France Inter. Vous voyez notre public dans le studio. Eh bien, dites-vous que ceux qui nous écoutent chez eux, c'est encore pire. Il y en a qui seraient morts en 1948. Désolé pour tous nos auditeurs enseignants qui ont été quelque peu choqués par la façon dont on s'est moqué du prof d'économie saucissonné par Didier Bignoureux. Bon, ça va, hein, ils étaient peut-être comme Leïla, un prof qui aime le bondage, l'humiliation, la fessée cul nue devant du public. Voilà, c'est humain après tout.
Mais ça va pas.
Et désolé enfin pour les très grands imitateurs, mais je respecte, j'ai un total respect pour les fessées cul nues. Désolé pour les grands imitateurs comme Gérard, Lebray, Gustin, Canteloup. Aujourd'hui, on a entendu éclore un immense talent de l'imitation. Nagui, qui nous a tous scotchés avec son interprétation impeccable du Yeti qui aurait bouffé Jean Lassalle. Qu'est-ce qu'il y a, Nagui? C'était Jacques Fabry?
Mais oui.
Ah, alors désolé pour la famille de Jacques Fabry.
Mais c'était ça. Il a raison.
C'était ça quand
c'est
il était en train de se racler la gorge.
Bien sûr. Non, non, non.
Mais non.
C'était un rire.
Exactement.
Oui, c'est vrai.
Tellement communicatif.
Mais bien sûr, le public partait là-dessus.
Et en plus, quand on vous voit faire la grimace, vous êtes tellement séduisant.
Oh, ça va. Bon, rien. Ouais, simplement que Daniel Russo ait apprécié cette imitation, ça me suffit.
C'est déjà une émission réussie pour vous.
Exactement. Voilà. Exactement. Je veux
avec beaucoup d'émotion.
Que les invités soient heureux, c'est l'essentiel.
Merci, j'adorais
Daniel
cet homme-là.
Oui. Ouais, absolument. À bientôt, Didier Bignoureux. À bientôt, Daniel Russo.
Merci
encore
beaucoup.
Bravo.
À très bientôt.
Le crédit Comédie des Champs-Élysées à partir du 29 mai prochain et tout l'été, n'en déplaise à Didier Bignoureux.
Il a loué en Grèce.
Et à sa location. Demain, nous recevons Daniel Picouli et tout de suite sont les carnets de campagne. Bonjour, Philippe Bertrand.
Bonjour, Nagui. Bonjour, les amis.
Salut.
J'ai entendu l'imitation aux gens, la salle qui bouffe un Yeti.
Mais
c'était génial.
Je vous ai fait la bande-annonce de la pièce, le crédit.
Vas-y.
Au Théâtre de la Gaîté, êtes-vous prêt pour le crédit? Alors, on compte sur vous. Alors, une moins sympa, c'est êtes-vous prêt pour le crédit et passer à la caisse?
Ah oui,
ah, oui.
Prêt pour le crédit à la
prêt,
caisse.
Oui, on compte sur vous.
Total. Ah, oui, Stéphane Legros vient d'appeler.
Ouais, voilà.
C'est fait.